Deutsche Welle. Droits et libertés.
C'est un congrès avec une très forte dimension politique. Par exemple, c'est un congrès sous le parrainage de quatre États, la France, la Suisse, la Norvège et l'Espagne. Et les ministres des Affaires étrangères de ces quatre États seront présents à l'ouverture. Mais il y aura aussi des étudiants et le grand public espagnol qui pourra par exemple participer à la marche de clôture le samedi 15 juin à midi. On organise une grande marche après la cérémonie de clôture. On va marcher dans les rues de Madrid pour dire non à la peine de mort avec tous les participants, mais aussi les Espagnols.
La peine de mort, donc, au programme de ce magazine. À l'occasion du 5e congrès mondial contre la peine de mort, nous ferons un état des lieux. Auparavant, nous reviendrons sur une affaire qui montre que la persévérance dans la défense de ses droits est parfois couronnée de succès. Plusieurs milliers de Kenyans, anciens combattants Mao Mao, vont être indemnisés par le gouvernement britannique pour les souffrances qu'ils ont endurées au début des années 1950. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce magazine. La dernière fois que nous avons parlé des Mao Mao dans ce magazine, c'était en juillet de l'année dernière. Trois anciens combattants Mao Mao, des vieillards de plus de 80 ans, avaient alors fait le voyage jusqu'à Londres pour être entendus par la Haute Cour de justice. Pour rappel, la rébellion Mao Mao, comme on l'a appelée, a éclaté au Kenya au début des années 50. À l'époque, les rebelles se recrutent principalement chez les Kikuyu. Ils attaquent des fermes appartenant à des colons blancs et exigent la restitution des terres dont ils ont été spoliés. Les Britanniques, avec leurs auxiliaires kényans, ripostent brutalement. Les affrontements vont durer jusqu'au début des années 60. Officiellement, ils font 8000 morts chez les Mao Mao, infiniment plus selon les historiens. Des dizaines de milliers de personnes sont arrêtées et entassées dans des camps. Elles y subissent des tortures. Wambugu Nyingi, une victime âgée aujourd'hui de 87 ans, a passé 10 ans en captivité.
Ils nous battaient tout le temps. Les Blancs nous obligeaient à ramper à genoux sur des pierres. Et ils nous mettaient des chaînes autour des chevilles.
D'autres survivants de cette rébellion Mao Mao parlent de castration, de femmes violées, de coups reçus jusqu'à perdre conscience ou encore de nourriture insuffisante. Alors, dans un premier temps, le gouvernement britannique a rejeté toute idée de procès. Et l'argument était que les dirigeants actuels ne pouvaient être tenus pour responsables des actes de l'administration coloniale. L'an dernier, la Haute Cour de justice a finalement jugé la plainte recevable. Et à présent, donc, le gouvernement britannique a accepté de verser des indemnités à quelque 5000 plaignants, indemnités d'environ 3000 euros par personne. La somme est jugée insuffisante par un plaignant, mais pour l'avocat Paul Muité, qui défend certaines victimes, c'est quand même pas mal.
It is not enough, but it is much, much better because most of these victims.
Ce n'est pas assez, mais c'est quand même pas mal, car la plupart des victimes ont aujourd'hui plus de 80 ou 90 ans. Dans ce genre d'affaires, il faut trouver un compromis. Si nous avions dit non, cela aurait signifié que l'affaire allait continuer en justice pendant 5 ou 10 années. Quels sont ceux qui auraient été alors encore vivants ? Je pense donc que c'est une mesure très importante. Il revient maintenant au gouvernement kényan de faire en sorte que ceux qui sont dans des endroits reculés ou qui ont été oubliés soient eux aussi indemnisés.
Et le secrétaire au Foreign Office, William Hague, a exprimé ses regrets. Les plaignants avaient demandé des excuses.
Grand is for the blood to say. your fight. You are spirit lead, Mau Mau warrior, you are fire burn. Mau Mau.
Le 5e congrès mondial contre la peine de mort s'ouvre le 12 juin à Madrid. Le dernier a eu lieu il y a 3 ans. À Genève, l'occasion donc de faire le bilan des progrès accomplis ces 3 dernières années sur le terrain de l'abolition de la peine capitale. Pour en parler, j'ai joint Nicolas Perron, responsable des programmes dans l'association Ensemble contre la peine de mort.
Il y a des progrès tous les ans. Tous les ans, il y a des nouveaux États, des États-Unis qui abolissent, qu'il y a des pays qui arrêtent d'exécuter. Donc c'est vraiment une thématique où on progresse très vite. Au-delà du dernier congrès, il faut savoir que, par exemple, il y a 30 ans, quand la France a aboli la peine de mort, en 1981, il y avait 2/3 de la planète qui pratiquait la peine de mort. Aujourd'hui, 30 ans après, la situation s'est exactement inversée. C'est-à-dire que 2/3 des pays du monde ne pratiquent plus la peine de mort. Et pour ce qui est de la période entre les deux congrès, il y a des États, par exemple, comme le Gabon, qui ont aboli, le Bénin qui a enclenché un processus d'abolition, la Mongolie est également en train de le faire. Donc vraiment, nous constatons des avancées chaque année.
Les gros pourvoyeurs, je dirais, de condamnés à mort restent les mêmes, non ? La Chine
Voilà. Après, on constate des avancées chaque année, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour certains pays. Il faut savoir que le premier continent en termes d'exécution de la peine de mort, c'est l'Asie, et bien entendu la Chine, qui à elle seule exécute plus de monde que la totalité des autres pays du monde. Donc la Chine est vraiment très très loin devant. On a aussi l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran et les États-Unis.
Alors j'aimerais que l'on parle plus spécialement des pays maintenant du nord de l'Afrique qui ont connu des insurrections populaires où les dictateurs ont été renversés, l'Égypte, Libye, Tunisie. Ces 3 pays auraient pu faire espérer qu'ils aboliraient la peine de mort, mais aucun de ces 3 pays n'a encore aboli.
Et effectivement, donc la région Moyen-Orient, Afrique du Nord est la 2e région du monde qui exécute le plus de personnes. Et c'est vraiment une région prioritaire pour Ensemble contre la peine de mort, et ça sera une des priorités du Congrès mondial. Pour la première fois, nous aurons une très forte délégation de ces pays, à la fois des activistes, à la fois des parlementaires, mais aussi des ministres qui, même étant dans des pays qui appliquent encore la peine de mort, ont décidé de participer au Congrès mondial. Je pense au ministre de la Justice d'Algérie, au ministre de la Justice de la Mauritanie, et nous avons même appris hier que le ministre de la Justice d'Irak avait affirmé son désir de participer au Congrès mondial. Pour ce qui est de la peine de mort, effectivement, le printemps arabe a laissé entrevoir un espoir pour nous sur cette thématique. Mais les choses ont... Si ces pays n'ont pas aboli la peine de mort, on a aussi constaté des avancées. Je pense en particulier à la Tunisie, qui n'a pas aboli, mais a pour la première fois voté favorablement la résolution des Nations Unies qui a lieu tous les 2 ans au mois de décembre concernant l'application d'un moratoire universel sur les exécutions. Donc même le gouvernement de tendance islamiste qui dirige actuellement la Tunisie a décidé de se prononcer officiellement en faveur d'un moratoire sur les exécutions. Donc ça, c'est une avancée vraiment notable et ça peut être un premier pas vers une abolition en droit. Et je tiens à préciser aussi que, par exemple, sur le cas du Maroc, nous avons été reçus en audience par le ministre de la Justice, donc du gouvernement islamiste marocain, qui... Si ne souhaite pas abolir la peine de mort, nous a quand même affirmé qu'il était hors de question de reprendre les exécutions qui n'ont pas eu lieu au Maroc depuis 1993.
Est-ce que dans des pays comme l'Égypte, par exemple, et la Libye, est-ce qu'il y a des exécutions ?
Alors voilà, les pays comme l'Égypte et la Libye, là, on touche à ce sont des pays évidemment extrêmement compliqués. Oui, il y a des exécutions en Égypte. Et là, il est évident que le gouvernement ne souhaite pas avancer sur cette question. Donc, et même, au contraire, essaye d'influencer les autres États de la région à continuer à appliquer la peine de mort. Ceci étant dit, nous travaillons quand même sur place, sur le terrain, avec nos partenaires, pour essayer de faire bouger les choses, pour essayer de faire comprendre que cette peine est inhumaine. Et c'est la même chose pour la Libye. Mais quand même, on ne perd pas espoir, nous avons des partenaires. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la Libye, on aura même des parlementaires qui vont venir au Congrès de Madrid, et notre idée, c'est de les inciter à créer un réseau deux parlementaires abolitionnistes en Libye. Un peu sur le même exemple que ce qu'on a fait au Maroc, puisqu'on a créé l'année dernière, à l'occasion du Congrès régional sur la peine de mort, le premier réseau des parlementaires contre la peine de mort dans le monde arabe. Donc qui regroupe aujourd'hui 200 à 300 parlementaires, toutes tendances confondues.
Et donc, si je comprends bien, l'un de vos grands espoirs à ce congrès mondial contre la peine de mort concerne surtout les pays du nord de l'Afrique.
C'est vraiment une des thématiques principales du congrès et plus généralement de l'action de CPM lorsqu'on contre la peine de mort à l'international. Et surtout les pays d'Afrique du Nord qu'on dit en moratoire de fait. Donc ce sont des pays qui n'ont pas exécuté depuis plus de 10 ans. Donc je pense au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie, à la Mauritanie, donc aux pays du Maghreb. Où là, on pense qu'il peut y avoir des avancées dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'on concentre vraiment nos efforts sur ces pays.
Nicolas Perron de l'association Ensemble contre la peine de mort. Je l'ai joint à Madrid où il préparait la tenue du 5e congrès mondial contre la peine de mort. Congrès qui aura lieu donc du 12 au 15 juin. Nous arrivons au terme de ce magazine Droits et Libertés. Merci de nous avoir prêté votre attention. Au micro, Marie-Ange Piron.